Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée aux chants grégoriens. Nous avons aujourd'hui avec nous Jean-François Goudesen, qui est chargé de recherche au Centre national de recherche et également attaché à l'Institut de recherche d'histoire des textes. Et il s'occupe plus particulièrement de la musicologie médiévale. À ce titre, il est avec nous aujourd'hui pour vous faire découvrir ses travaux sur les manuscrits chartrains, parce qu'il n'est pas suffisamment connu que la cathédrale de Chartres, avec l'abbaye bénédictine de Saint-Père-en-Vallée, était sans doute l'un des grands centres de la musique au Moyen-Âge, d'où sont sorties plusieurs pièces, en particulier les pièces composées par l'évêque Fulbert, qui est mort évêque à Chartres en 1028 ou 1026, selon les datations des manuscrits. On ne va pas à chercher à établir la date précise. Nous sommes autour de l'an 1000. L'an 1000 qui va découvrir la notation aussi des manuscrits. Donc je souhaite la bienvenue à Jean-François Goudesen, qui va nous parler plus particulièrement donc, des manuscrits chartrains sur lesquels il a travaillé.
Absolument, oui. Dans le cadre d'inventaire de manuscrits dans les bibliothèques européennes et plus particulièrement en France, qui est très riche, hein, après l'Italie et avant l'Espagne, on a vraiment toute une tradition de sources extrêmement importantes. Une histoire compliquée aussi, compliquée par les événements de 44, des bombardements alliés qui ont justement à Chartres, à Tours également, fait beaucoup de provoquer beaucoup de destruction. Hein, on n'imagine pas en fait que beaucoup de manuscrits ont disparu à cette époque-là encore, et que donc notre tâche d'archéologue et de philologue des textes et d'essayer de reconstruire ce patrimoine pour le valoriser. Et c'est vrai que la tradition de Chartres dans le paysage de la France médiévale, à côté d'Orléans, Tours, c'est intéressant de se poser la question pourquoi, à si près de Paris, y a-t-il plusieurs écoles comme ça de culturelles, de composition au Moyen-Âge, que l'histoire de la musique n'a pas tellement retenu. C'est vrai que si on regarde Chartres, Angers, Saint-Maur-des-Fossés, etc., dans l'historiographie, c'est vrai que ça passe au second plan par rapport à Pérotin, Léonin, par rapport à Saint-Martial de Limoges. Et donc j'aime bien revaloriser des centres un peu mineurs qui sont sous-évalués. Donc c'est vrai que Chartres est un cas d'école intéressant pour cela.
Et les manuscrits chartrains, justement, sont intéressants dans la mesure où on a peut-être inventé une notation un peu à part. Et vous soulignez, ou vous aviez souligné dans un colloque qui s'était tenu à Chartres, que la couleur verte était utilisée pour souligner le fa.
Absolument, oui. Oui, il y a des caractéristiques locales. Donc Chartres, mais peut-être pas seulement Chartres, je pense que jusqu'à Angers, Tours, etc. On a une école à partir de la fin du Xe siècle jusqu'au XIIe. On a une famille régionale assez large qui couvre donc le Maine, l'Anjou, la Touraine, cette région. Voilà, et on a vraiment des caractéristiques, en effet, qui sont très différentes de la Lorraine, de l'Auvergne, où voilà, on a des colorations différentes, des compositions un peu différentes. Voilà, et c'est...
Comme vous l'avez dit dans une émission précédente, que vous avez eu la gentillesse d'enregistrer pour Radio Grand Ciel avec nous sur les différentes écoles en matière de chant médiéval. Justement, à Chartres, on avait sans doute une manière différente par rapport aux autres centres de création musicale de noter, de composer.
Alors, cette différence que les Chartrains aiment revendiquer, comme toutes toutes les personnes aiment valoriser leur région, je pense qu'elle est provoquée probablement par les invasions normandes. J'ai essayé de comprendre pourquoi à Tours, à Angers, dans le nord de la France, à Sens par exemple, qui est dans la même province ecclésiastique que Chartres, il me semble, pourquoi Chartres donc constitue une sorte d'enclave avec la Normandie, où on a une tradition mélodique, par exemple, légèrement avec des petites variantes. Ce sont des petites variantes de détails, ou dans l'ordre de composition des pièces. On voit tout de suite que voilà, la Normandie et Chartres constituent une enclave dans ce qu'on appelle la Francie occidentale, hein, qui va, disons, de la Bretagne jusqu'à l'Escaut environ, et jusqu'aux abords de Reims et de Laon, qui inclut le bassin parisien, qui va jusqu'à Sens et Auxerre, c'est l'ancien royaume de France. Et toute cette zone chartraine normande est différente. Et c'est une conséquence des destructions, des invasions normandes qui ont obligé ces provinces à se réformer, à reconstruire leurs abbayes sur des matériaux un peu nouveaux et un peu différents de la tradition antérieure. Par exemple, donc, Chartres et l'abbaye de Saint-Denis, dont il y a certainement beaucoup de liens sur le plan d'iconographie, dans les vitraux, dans la sculpture, etc. C'était en Eustrie. Donc on a le même univers sur le plan artistique. Or, sur le plan musical, il y a une légère différence. C'est ce qui explique, à mon avis, la spécificité chartraine. Et donc, Chartres note ses manuscrits dès le milieu du Xe siècle. On a l'attestation du passage de scribes d'origine bretonne, hein, qui aurait donc inventé une notation qu'on appelle aujourd'hui breto-chartraine, qui est une des premières notations musicales qui s'est codifiée vers 950. Donc c'est vraiment très intéressant de retrouver ces documents qu'on a encore dans les bibliothèques et qu'on a surtout grâce aux photographies du chanoine de Laporte, hein, qui avant les bombardements de 1944 avait photographié le graduel de Chartres. Mais on retrouve des documents un peu partout, puisque vous savez qu'au Moyen-Âge, les gens, s'ils n'avaient pas le TGV ni le train, circulaient énormément, et qu'on retrouve donc des manuscrits, des scribes de Saint-Père de Chartres. On en retrouve à droite et à gauche, par exemple à Valenciennes, on a un fragment d'un graduel similaire, exactement le même, un tout petit fragment. Et donc voilà, on a des notations très précises qui permettent de reconstruire la musique avec très grande précision, et notamment la musique polyphonique. Puisque Chartres, dès l'an 1000, un peu avant Fulbert, à l'époque de Vulfade, qui était un ancien abbé de Fleury, et qui est devenu évêque de Chartres vers 968, je crois, on a donc toute une tradition de chants à plusieurs voix qu'on va retrouver à Winchester en Angleterre, à Worcester, etc., Corby, Fleury, donc Saint-Benoît-sur-Loire, et qui est une sorte de première grande floraison de l'art de l'organum, du déchant, qui est quasiment mal desservie aujourd'hui par les interprétations qui se sont beaucoup focalisées sur Saint-Martial de Limoges au XIIe siècle, l'Aquitaine, et bien évidemment Notre-Dame de Paris, dont le répertoire est absolument remarquable, mais qui est vraiment autre chose qui s'est mis en place vers 1150. Là, on est, nous, en 980. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Donc, vous nous proposez d'écouter l'ensemble Venance Fortunate, et en particulier la pièce Stirps Iesse, qui est
attribuée d'ailleurs à un moine qui s'appelait Sigon, si je ne me trompe.
Alors, Stirps Iesse, c'est notre cher Fulbert qui l'aurait composé sur un poème même de Robert Lepieux, et le persona Aurelia dont vous vouliez peut-être parler à la fin, on va le passer après, parce que le Stirps Iesse permet, avec l'ensemble de Anne-Marie Deschamps, d'écouter peut-être la première application de Deschamps, de polyphonie. Nous avons écouté en extrait chanté par l'ensemble Venance Fortunate le Stirps Iesse, qui est attribué à Fulbert, évêque de Chartres, mort en 1028, et Jean-François Goutsen, qui est avec nous, qui a travaillé sur les manuscrits chartrains, car il est chercheur à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui s'occupe actuellement des manuscrits chartrains. Je crois qu'on est en train de les reconstituer.
Absolument, oui. Un gros projet mené par mes collègues Dominique Poirel et Claudia Rabel sur la reconstruction des manuscrits disparus en 1944. Certains fragments ont été sauvegardés et sont en cours de restauration avec les ateliers de la Bibliothèque nationale. Et notamment, par exemple, une Musica Inquiriadis, qui est un traité d'organome attribué à Hugues de Verdun et autrefois à Hugbald de Saint-Amand, un fameux moine des années 900, où on décrit le chant à plusieurs voix, hein, ce qu'on appelle l'organome ou le déchant, dont il y a un manuscrit très important qui était à Saint-Père-de-Chartres, hein, qui est vraiment un lieu extrêmement important, aussi important, voire plus que la cathédrale. Et donc, ces trois répons de Fulbert, Sir Piesse ad Nutum Domini et Solem Justitiae, composés pour la Nativité de la Vierge, hein, le 8 septembre, sont vraiment des compositions très importantes pour le renouveau du culte marial en Occident et qui ont connu une fortune exceptionnelle, qui se sont diffusées rapidement dans toute l'Europe et qui montrent la vitalité des écoles, cathédrales, chartraines et autres dans l'Empire d'Occident.
Donc, dans le prolongement de ce que nous venons d'écouter, vous nous proposez d'écouter l'Alléluia.
Dies Sanctificatus, voilà, pour la fête de Noël, l'Alléluia de la lumière, de l'épiphanie, la manifestation de Dieu par la lumière, qui est une traduction d'un texte grec, Himera Agiasmeni, qu'on retrouve parfois en grec d'ailleurs dans les manuscrits de Saint-Denis, de Chartres un peu moins. Et donc, il y a plusieurs versions qui ont été faites de cet Alléluia, dont des versions polyphoniques. Et ici, un organum attribué à un certain Sigon, sur lequel vous avez peut-être des informations.
Vous propose d'écouter la musique.
Absolument, écoutons cet Alléluia, Dies Sanctificatus.
Nous venons d'écouter l'Alléluia Dies Sanctificatus chantée par des voix de femmes. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on avait la possibilité d'écouter les voix de femmes?
Absolument, surtout dans les monastères. Alors évidemment, dans les cathédrales, c'était plutôt les voix d'enfants en fait, hein, qui chantaient ces pièces. Et donc, à défaut aujourd'hui, ce sont plutôt les voix de femmes qui se substituent. Mais dans les couvents de moniales ou dans les monastères doubles, comme Fontevraud, par exemple. Mais c'est vrai que c'est quand même... Le chant grégorien est quand même chanté par les hommes en général. C'est vrai que c'est pas exclusif, mais c'est quand même une réalité incontournable. Et alors, ce qui est intéressant dans ces polyphonies, c'est la modernité du langage. Enfin, je sais pas, je pense à des pièces de John Cage ou des polyphonies du milieu du XXe siècle. On a une très grande liberté. Les intervalles consonants ne sont pas du tout ceux de la musique classique à laquelle on a été formé depuis le XVIe siècle avec la tierce. Mais c'est plutôt l'unisson, l'octave, la quinte, la quarte, qui sont des consonances les plus importantes. La tierce n'est pas du tout consonante à cette époque-là. Je rappelle qu'on est avant l'an 1000, hein, on est autour de l'an 1000, disons. Et une très grande liberté dans le rythme. Alors, ces documents sont écrits donc, par deux rangées de neumes superposés les uns sur les autres, sans indication de hauteur. Donc on peut reconstruire la mélodie. De l'Alléluia, c'est une mélodie grégorienne, donc on l'a dans les manuscrits surportés par la suite. Et pour la voix organale en polyphonie, il faut essayer de la reconstruire, parce que les choses ne sont pas indiquées toujours précisément. On indique les endroits où les voix concordent, et après, il y a toujours plusieurs possibilités. Donc c'est très intéressant pour les musicologues et les interprètes de procéder comme ça à des reconstructions. Et on a donc 5 ou 6 pièces... du graduel et de l'office à Chartres dans cette tradition, hein, qui est une tradition pour laquelle on n'a pas beaucoup de corpus, à la différence par exemple de Winchester, où là on a énormément de choses. Donc c'est très précieux d'entendre ces polyphonies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va entendre un siècle ou deux après, avec Léonin et Perrotin, où là on a vraiment l'art de l'organum qui est un autre langage.
Codifié. Alors, il ne faut pas oublier, effectivement, qu'avant l'an 1000, il n'y avait pas encore la notation avec la portée, à
voilà,
4 lignes.
La portée arrive vers 1120, 1130.
Oui, voilà. Donc nous ne sommes même pas sûrs que cette interprétation soit celle qui prévalait.
Absolument pas. C'est un essai, c'est une hypothèse avec Venance Fortuna. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on interpréterait un peu différemment cette... peut-être pas seulement au niveau de la polyphonie, mais même du plein chant, hein, qui ne serait pas chanté par une personne seule, avec moins de temps de pause entre les phrases, un tactus un peu différent. Enfin, il y a toute une rythmique. Souvent, les gens disent, oui, le chant grégorien, il n'y a pas de rythme. Absolument pas. Il y a un tactus, il y a un rythme. Mais il est implicite, il est dans le verbe, dans la parole, et il est dans le rythme propre de la phrase. Et c'est au chanteur de le réinventer. Et c'est une musique, justement, très différente de la musique dans laquelle on baigne, qui est une musique mesurée, avec des croches, des doubles croches. Là, on est vraiment dans un autre monde. Comme certains langages contemporains dans les musiques actuelles depuis 50 ans. Mais il faut reconstruire les choses et essayer de les sentir un peu différemment.
La musique en chant grégorien est en harmonie avec le texte.
Absolument, voilà.
Dont elle devient le support expressif.
Voilà, absolument, absolument.
Alors, vous avez dit que les manuscrits enluminés, les manuscrits médiévaux de Chartres ont cette importance parce qu'il y a eu un centre de création important.
Oui, un centre de création poétique, musicale, d'enluminure. Et on sent que beaucoup dans le déroulement d'une allée liturgique, par exemple, on a énormément de, comme l'a montré la musicologue Margot Fassler, de séquences qui sont composées localement. Donc on a vraiment, comme à Lan un peu, c'est un peu le pendant de la cathédrale de Lan, beaucoup de compositions qui ne sont pas les compositions universelles de l'Église romaine, mais qui en plus... ont été composés pour des fêtes locales, pour des saints locaux, et surtout pour le culte marial, qui prend une ampleur...
Voilà, et aujourd'hui, dans la manière dont la messe a été codifiée depuis le Concile 30, il n'y reste que 4 séquences, dont la fameuse séquence pour la fête de Pâques, Victime
voilà.
Et Pascal et Laudis.
C'est encore une profonde incompréhension qu'il y a... L'ecclésiologie du Moyen-Âge est vraiment une église différente. Alors, bien sûr, c'est toujours l'église catholique romaine, éternelle, universelle, mais... culturellement, il y a la rupture de la contre-réforme qui laisserait à penser que toutes ces compositions poétiques seraient susceptibles de déviations, d'hérésies, etc. Ça, c'est une vision purement de l'époque de la réforme ou de la contre-réforme ou du 19e. On a recomposé tous les textes, on a balancé. excusez-moi de l'expression, mais toutes ces compositions qui sont d'une subtilité remarquable sur le plan littéraire, sur le plan de la versification, puisque le latin n'est pas seulement une langue en prose, mais une langue versifiée, avec des constructions extrêmement savantes, c'est inimaginable, à la fois sur le plan littéraire et sur le plan musical. Hein, donc en supprimant tous ces textes sur des arguments théologiques, on a fait un peu comme ces censeurs ou ces aléatollahs qui suppriment la culture, une sorte de révolution culturelle à la contre-réforme où on a éliminé la création. Une création qu'au Moyen-Âge, on laissait fleurir, on laissait les choses se superposer. C'est-à-dire qu'on n'opposait pas la tradition de l'écriture sainte, sacrée, à laquelle on ne touche pas, avec des inventions humaines de poètes qui, depuis Venance Fortuna, enrichissaient le corpus biblique d'un tas de textes qui étaient comme des gloses, des paraphrases, qui font coexister la création avec la transmission d'un patrimoine biblique.
Oui, Saint Ambroise, il n'a pas fait éliminer les milliers d'hymnes qui avaient été composés. Il a dit, on termine toutes les hymnes par une doxologie, une petite phrase à la gloire de la Trinité. Et on retombe dans ce qui est religieusement orthodoxe et juste. Donc nous avons sans doute perdu cette richesse. Il y avait aussi une tradition au Moyen-Âge du chantre qui pouvait broder autour d'un thème donné, ce que les chanoines n'aimaient peut-être pas toujours si ça prolongeait trop les cérémonies.
Peut-être.
On n'a peut-être pas suffisamment de témoignages. Et la musique, de toute façon, représentée dans la cathédrale à travers les vitraux, les sculptures, occupait une grande place.
Absolument,
avec les maîtrises.
Oui, tout à fait. Alors, je me permettrai de dénoncer un obscurantisme contemporain, finalement, ou moderne, c'est-à-dire qu'on aurait les moyens aujourd'hui, au niveau éditorial, de publier tous ces textes de l'école chartraine ou d'ailleurs, cette poésie liturgique. Certains chercheurs suédois à Stockholm, avec le Corpus Troporum, ont édité les tropes et les séquences depuis une trentaine d'années, et il y aurait moyen de les chanter dans la liturgie. On a tout à fait les moyens aujourd'hui, avec tout le patrimoine manuscrit que nous avons, de faire connaître au grand public, d'enregistrer des disques, de les intégrer dans la liturgie, etc. Or, les éditions monastiques ou les éditions officielles préfèrent publier les livres traditionnels avec uniquement les cinq séquences et les cinq proses du Concile de Trente, alors qu'il y a un pan entier de tropes, par exemple pour Noël, le Puer Natus Est à Chartres, est complété par des petites phrases qui viennent compléter chaque phrase du Puer Natus Est. Et donc le grand public ignore absolument aujourd'hui, ce qui est quand même scandaleux, tout ce patrimoine des tropes qui est de la poésie liturgique qui vient un peu gloser ce patrimoine. Et on a les moyens, donc on espère un jour avoir une meilleure aide à la diffusion de cette culture que l'on connaît, mais que par passivité, on préfère rester sur le chant grégorien paroissial des années 60, 50, sans vraiment découvrir le patrimoine médiéval. Il y a un gros progrès à faire.
Justement, il revient le mérite à l'ensemble Venance Fortuna d'avoir déblayé le chemin,
absolument,
d'avoir enregistré ces
vrai.
Pièces méconnues,
oui,
qu'il faut absolument redécouvrir. Et vous voulez nous faire écouter une autre pièce de Benedict Camus Domino.
Benedict Camus de la
justement
fin des
aussi, voilà, aussi par, interprété par l'ensemble Venance Fortuna. Donc écoutons cette pièce très ornée.
Benedicamus
d'écouter le Benedict Camus Domino interprété par l'ensemble Venance Fortuna sous la direction d'Anne-Marie Deschamps. Jean-François Goutsen qui est avec nous dans le studio de Chartres, qui est chargé de recherche en musicologie médiévale. Vous avez appris l'orgue, le clavecin, donc comme dans les anciennes maîtrises au Moyen-Âge, maîtrises dont vous pouvez peut-être rappeler pourquoi on ne les a plus. ces écoles où les jeunes enfants...
Oui, c'est la grande rupture de la Révolution française qui a transféré en fait indirectement les maîtrises vers les conservatoires, où on a développé plutôt un art instrumental. Hein, on est encore très héritier aujourd'hui d'ailleurs de cet état des choses par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre ou d'autres pays où on a une tradition vocale dans les cathédrales. Ouais, donc il faut aller à Canterbury pour imaginer un peu le faste des cérémonies au Moyen-Âge, où on avait donc à partir du XIIIe siècle, fin XIIe, XIIIe, XIVe, pour Chartres je pense que c'est au XIVe, enfin il faudrait refaire une histoire musicale de Chartres, la faire connaître au grand public. Mais donc on a des maîtrises, mais auparavant, avant les maîtrises, il y avait les chantres. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que le chant liturgique n'était pas chanté par une chorale, comme au sens aujourd'hui contemporain du terme, mais plutôt par un chantre, accompagné d'un préchantre et d'un sous-chantre. Donc en général, ils étaient dans les cathédrales comme Chartres, l'an 2 ou 3 chantres, avec évidemment un rôle très important pour les pueri cantores ou les clericuli, qui sont ces petits clercs qui parfois avaient des responsabilités bien plus importantes qu'on ne pense. C'est-à-dire qu'ils chantaient des graduels, des alléluia, soit avec les chantres ou soit seuls parfois. Donc ça nous déconcerte beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur les ordinaires des cathédrales d'Amiens, de Chartres, de Laon, de Reims, fin 12e, début 13e. C'est de voir qu'à cette époque où on construit les grandes cathédrales, les pratiques sont les mêmes que la période romane et la période carolingienne, avec un chant quasiment soliste avec un ou deux chantres. Vous imaginez, dans le vaisseau de Chartres, un ou deux chantres qui chantent la liturgie. Donc peut-être les voix étaient beaucoup plus puissantes, et puis le rapport au son un peu différent, le mobile liturgique, le jubé faisait peut-être que l'acoustique était très certainement différente d'aujourd'hui. Et puis après, avec le lutrin qui apparaît dans la cathédrale, c'est-à-dire qu'on chante sur un livre posé près de l'autel, enfin voilà. Et l'apparition des maîtrises va augmenter un peu les effectifs. Mais là, il faut attendre, disons, le XIVe siècle, où on a, par exemple, à Chartres, une douzaine de chantres, hein, accompagnés de 6 ou 7 enfants. Donc un effectif de 15-20 personnes, grand maximum. Et donc, qui accompagne le développement de la musique polyphonique et qui va vers la musique de la Renaissance du XVe et XVIe siècle.
Voilà, alors je sais que vous animez aussi des stages à Conques depuis 2013, régulièrement.
Absolument, un stage pour essayer de retrouver dans une acoustique romane, essayer vraiment de s'inspirer de ces acoustiques absolument remarquables. On comprend que ces musiques sont faites pour des acoustiques de ce type, qui sont déjà des grandes églises, Conques c'est vraiment très très grand. Et donc on essaye d'adapter, il y a une interaction entre l'architecture et le corps intérieur du chanteur, et la fusion des voix entre les chanteurs aussi.
Et heureusement,
énorme travail.
Voilà, heureusement, le chant grégorien n'est pas encore abandonné complètement. Nous avons à Chartres aussi la grande chance d'avoir une scola grégorienne et une messe grégorienne à 9h15 à la cathédrale. Donc les chanteurs parmi vous, chers auditeurs, si vous vous sentez là, vous pouvez apprendre le chant grégorien après un travail régulier. On peut arriver
absolument
à restituer.
Il faut vraiment penser que le chant grégorien n'est pas quelque chose forcément du passé, mais aussi quelque chose de l'avenir, c'est-à-dire que c'est une invitation à la production artistique, à reconstruire. C'est à la fois une création et une tradition. Je pense qu'il faut libérer le chant grégorien des griffes du traditionalisme, parce qu'il y a une très grande modernité dans le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus riche qu'on ne pense. Et je pense qu'il faut décloisonner un peu les débats. Et même, sachez qu'à Chartres, par exemple, on chantait les épîtres de Saint-Étienne en langue d'oïl. Donc la langue vernaculaire avait sa place dans la liturgie. Et ce serait intéressant aussi de chanter cette langue française du XIIIe siècle, qui vient à côté du latin.
Merci beaucoup à Jean-François Goudessen d'être venu à Chartres pour nous parler d'histoire du chant grégorien et des maîtrises, surtout des manuscrits chartrains, une belle école chartraine qui devrait être dans l'avenir, attirer toute l'attention des chercheurs en la matière. Merci beaucoup, chers auditeurs. À très bientôt.
Merci.